revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 13, année 2016, salut Manu.
Salut Simon.
Salut Luc.
Comment ça Simon, c'est quoi cette arnaque? Il est où notre Nico?
On l'a perdu en route, non on a récupéré Simon, au moins pour cette fois-ci. Simon, qui es-tu?
Simon de Carpentry, alias Siltar. Je suis un libriste convaincu, très actif dans le milieu associatif, adhérent de l'April depuis 2002, ancien permanent de Framasoft, ancien depuis très peu de temps d'ailleurs, pendant 5 ans et jusqu'à la semaine dernière, ancien trésorier de FDN, French Data Network, renommé il y a peu de temps French Digital Network d'ailleurs, peut-être bien à l'origine d'une initiative de fournisseurs d'accès Internet libre associatif en Sarthe qui rejoindrait la Fédération FDN.
Ouais, parce que tu habites au Mans.
Parce que j'habite depuis peu de temps au Mans et je suis d'ailleurs a priori encore au CA de Paris Nux.
Donc en fait tu es de passage chez nous et donc voilà, sois le bienvenu et même si tu n'as pas lu la revue de presse, on ne doute pas que tu suis l'actualité d'assez près.
Faut qu'on se méfie, hein. Je suis sûr qu'il est fiche S. Lui c'est obligé, il est suivi, il est dans trop de trucs à la fois, c'est compliqué.
Alors de quoi on parle cette semaine Manu?
Bah on a nos 7 articles habituels, les 7 thèmes, hein. Le 1er avril bien sûr, le Darknet... On peut avoir peur, le hacking des impôts, un truc pas mal intéressant, le bashing façon Microsoft, la friche culturelle nichée Place Chazette à Lyon, le logiciel libre donc du point de vue de Ouest-France, et puis la Commission et le Parlement européen et les logiciels libres, des choses pas mal.
Next Impact, 1er avril, notre bilan des meilleurs poissons du net, un article de Sébastien Gavois.
Il y a une sacrée photo en démarrage.
Un gros poisson, de quoi remplir beaucoup de boîtes de spam.
Effectivement, donc Next Impact a fait un tour d'horizon de tous les gags du 1er avril. Il en cite un certain nombre et il y en a quelques-uns qui ont bien fonctionné. Simon, tu parlais...
Ou mal fonctionné.
Mais on parlait de ceux qui ont marché, tu parlais de French Digital Network.
Exactement. C'est peut-être la première fois depuis la création de l'association, soit depuis 1992, que FDN a proposé un poisson d'avril en annonçant le partenariat de l'association avec le gouvernement, à savoir que une des activités de French Data Network, au-delà de la fourniture d'accès à Internet, c'est d'attaquer régulièrement les décrets d'application des lois liberticides et qui réduisent la liberté d'expression sur Internet. Du coup, l'annonce de ce partenariat était assez comique et pour l'occasion, French Data Network se voyait renommé French Digital Network et adoptait comme porte-parole à la place de Benjamin Bayard, Monsieur Rogard, lobbyiste en chef de la SACD.
Ouais, et pareil qu'il y a des gens qui ont marché à ce canular.
Pas mal, en effet, et bah, bien chiadé. Et puis bon, le nouveau président de l'association, Fabien Sirgent, toujours avec un ton sérieux, ne nous a pas habitués à ce genre de péripéties. Et puis bah, bien marché, peut-être pas autant que le canular de Paris Nux, qui pareil, une fois n'est pas coutume, cette année a proposé quelque chose, et que même des administrateurs de l'association sont tombés dedans.
Oui, il y en a un qui s'est énervé, il a dit « Comment ça, on m'a pas tenu au courant, on l'a pas voté, c'est scandaleux. »
Un accord, hein, c'est ça?
Voilà. En tout cas, l'article de Next Impact parle de tas de poissons d'avril, hein, pas uniquement dans le domaine de l'informatique.
Celui de l'April, ça n'empêche, il est quand même intéressant. Hein. L'April monte un groupe de pom-pom boy et girl.
De pom-pom gnou.
Bah oui, pour encourager l'utilisation du logiciel libre.
Voilà, mais c'est pas complètement stupide quand on voit ce qui se passe au niveau des talabs, on en reparlera un peu plus tard.
Et puis c'est aussi en souvenir de la loi qui vient de passer, où il y a un encouragement au logiciel libre, ce qui était un petit peu ridicule. On dit pas que les pom-pom gnous sont ridicules, encore que, mais c'est un petit peu idiot parce que nous, on voulait avoir la priorité au logiciel libre, ce qui avait un vrai sens.
Voilà, donc il y en a plein d'autres. Moi, j'aime bien celui de la Gendarmerie Nationale qui a annoncé qu'ils avaient une nouvelle recrue dans leur brigade féline. Donc, quand on imagine les chiens policiers, voilà, on imagine...
So much cocaïne.
Les chatons, ça marche toujours bien sur Internet.
Voilà. Sud-Ouest, réseau Darknet et terrorisme, de l'amalgame à la désinformation, un article de Jean-Philippe Renard.
Alors le Darknet, avec notre fiche S qui est ici, alors, le Darknet c'est un truc de vraiment de méchant.
C'est un article, je précise, hein, c'est plus une tribune, puisque c'est un chercheur. Hein.
Un chercheur qui a l'air de bien connaître le sujet, et un petit peu, enfin c'est un prof, management et technologie, doyen du corps professoral Grenoble, école de management, enfin c'est pas n'importe qui a priori, et qui prend plutôt de notre côté, c'est-à-dire le Darknet, c'est idiot de cracher dessus dessus, c'est pas de là que viennent les terroristes, et on a besoin, nous, en tant que citoyens, d'avoir accès à des éléments qui sont pas sous surveillance en permanence.
Voilà, il précise également que dans le monde, y a des coins qui craignent encore plus que chez nous, même beaucoup, beaucoup plus, et que tous ces outils-là leur sont utiles pour s'exprimer,
pour se protéger,
voilà, pour se protéger, pour pouvoir défendre leurs idées, se battre contre les dictatures, ce genre de choses.
Et puis toi, tu en parles tout le temps, on a besoin de chiffrage, ne serait-ce que pour accéder à sa banque.
Ouais, c'est même Nico qui en parle.
T'as raison, c'est vrai, on dit chiffrement, chiffrage, c'est une déformation qui vient de l'anglais, oui, c'est vrai.
Voilà, le fouet.
Et l'article comporte le terme au tout début, là, bien souligné, de dark web, et en effet, tant qu'à faire des amalgames, darknet, c'est un terme journalistique qui sert à faire peur et à décrire à peu près ce qui se passe sur Internet quand ça passe pas par le web et par un navigateur. Du coup, le mail, en fait, c'est l'utilisation d'Internet sans passer forcément par un navigateur. Ça va pouvoir se ranger dans le dark web. Ça fait pas si peur que ça. IRC, des choses un peu historiques. Et heureusement qu'on peut utiliser Internet avec d'autres protocoles.
Alors, faut voir, hein, parce que le mail, comme c'est pas chiffré, pour le coup, n'importe qui d'un peu sérieux peut écouter ce qui se passe dessus. Je pense que ça rentre pas dans cette définition autant.
Et du mail avec chiffrement GPG, ça marche.
L'Obs, deux jours pour hacker les impôts, un article de Thierry Noisette. Donc, on voit le résultat des pom-pom gnous. Trois ministres ont fait le déplacement.
Waouh.
Donc, en fait, c'est le sujet dont on parle très régulièrement dans la revue de presse là, depuis plus d'un mois maintenant. C'est le passage au libre d'un code développé par le ministère des Finances, c'est ça, hein. C'est un simulateur fiscal, et il y a eu une grosse bataille pour libérer le code, et manifestement, au gouvernement, puisqu'ils ont sauté le pas alors que l'administration fiscale était plutôt contre, ils ont décidé de faire les choses bien et de dire, quitte à y aller, autant y aller à fond. Ils ont déplacé trois ministres dans les locaux de Mozilla.
Alors, locaux, c'est vraiment des jolis locaux, donc...
Ils sont locaux de louer ce genre de bâtiment, oui.
Ah, ça effectivement, hein, mais ça en jette, et pour le coup, ça permet de faire des réunions, des présentations, et là, de travailler sur quelque chose de vraiment impactant, puisqu'on en parle à la télé, on en parle dans les journaux, le code des impôts est enfin accessible, donc on va pouvoir tous faire de l'optimisation, pas de manière illégale.
Le code
de manière...
impôts a toujours été accessible.
Mais non, le code, au sens du code qui est vraiment utilisé pour le faire, parce que c'est ça la particularité,
oui.
Code is law. Et le code qui est écrit dans les impôts qui doivent être utilisés, il est tellement illisible, il est tellement imbitable que même les gens des impôts, ils utilisent ce genre de simulateur pour essayer de...
Non, c'est pas parce que c'est imbitable, c'est que ça leur permet de travailler sur des scénarios en disant si on a tant de population...
Ça leur permet d'avoir un parti pris sur la loi, ouais. et de le garder secret. L'argument officiel avancé par le ministre des Finances pour ne pas libérer le code jusque-là.
Mais ce qui se tient par rapport au système de régulation traditionnel. Mais après, on peut imaginer qu'un ministère ait besoin de faire des projections en se disant si on a tant de croissance, si on a telle et telle variation macroéconomique, qu'est-ce que ça donne au niveau des finances ? Et c'est à ça que ça sert, ce simulateur, à la base.
Alors, quand même, citer la performance, puisque le code a été ouvert et donc analysé, relu par les pairs, par des développeurs, il a même pu être retouché, modifié et tourné avec des améliorations. Et le temps de calcul pour les impôts en France est passé de...
un mois à quelques dizaines de minutes.
Voilà, de l'optimisation,
donc on voit
l'intérêt du logiciel libre.
Voilà, dès le premier jour, voilà, l'intérêt du logiciel libre, comme tu le dis. 01net, Microsoft arrête de bâcher Linux et intègre ses outils dans Windows 10, un article d'Adrien Banco.
Alors là aussi, c'est pas nouveau, on en parle depuis déjà quelques temps. Il semblerait que Microsoft ait vraiment changé son cheval de bataille. Le logiciel libre, ce n'est pas le mal. Non, au contraire, ils l'embrassent et ils l'aiment. Et ils aiment à montrer qu'ils font du logiciel libre, ils ont libéré pas mal de leur code. Et là, ils intègrent un outil qui vient du logiciel libre, Bash, que moi j'adore, que j'utilise en permanence, c'est un outil de console. Ils l'intègrent dans Windows.
Alors d'abord, je suis passé à ZSH parce que Bash... c'est trop vieux, c'est trop sclérosé, alors que ZSH c'est moderne. Et ensuite, Microsoft utilise Bash, oui, ils ont plus les moyens de redévelopper tout ce qu'ils utilisent, donc maintenant ils réutilisent.
Ah oui, c'est probablement une très bonne raison, hein. Il n'y a pas de doute.
Là, on rappelle, l'article est pas mal foutu, je trouve, notamment parce qu'il explique déjà ce que c'est, pour des gens qui ne connaissent pas du tout, et c'est pas mal. Ensuite, parce qu'il explique pourquoi, et ça fait écho à un article qu'on a évoqué la semaine dernière sur pourquoi les développeurs utilisent moins Windows et plus Mac et Linux, et justement pour ces raisons-là. En revanche, c'est tout à fait dans la veine de ce qui a été dénoncé par un article qu'on a vu il y a 15 jours qui disait que Microsoft continue à mettre des brevets partout, à essayer de rançonner la terre entière.
Et ils y arrivent, hein, voilà, ils rançonnent.
Et qu'ils avaient des vues en disant voilà, Linux nous appartient et on va essayer de tuer tout ça.
Et ce serait des milliards.
Voilà. Voilà. Et où dans cet article, il dénonçait tout le de com de Microsoft pour dire oui, on adore le libre et que ces actions-là passaient inaperçues.
C'est très intéressant s'ils prennent le même chemin que SCO qui a essayé de revendiquer l'appartenance des brevets sur Unix. Ça risque de détruire Microsoft aussi sûrement.
Non, non, laisse tomber. Malheureusement, ils attaquent pas une entreprise en particulier, ils les attaquent toutes et toutes baissent le drapeau face à Microsoft, toutes acceptent de payer, il semblerait.
Rue 89 Lyon, l'histoire d'une friche culturelle et numérique nichée Place Chazette à Lyon. Un article de Victor Guibert.
Toute une présentation d'un hackerspace à Lyon qui s'installe dans un lieu qui a l'air assez sympa. Présentation de ce qu'ils font, de ce qu'ils font déjà, de ce qu'ils vont faire, notamment de la musique, de l'art. Et puis, bien sûr, hackerspace, donc il y a de la 3D, il voilà, y a des choses.
C'est ce qui fait envie, c'est que ça a l'air très très complet et en tout cas de faire rencontrer des mondes très différents, puisqu'il y a hackerspace, il y a également des canapés où on peut boire un coup et discuter. Il y a de l'art et pas uniquement de l'art libre, malheureusement. Mais en tout cas, des gens voilà, qui coopèrent, qui travaillent ensemble, et un hackerspace très tourné libre. Et là, on a deux articles hein, qui remettent un peu le libre au sein des makers et ce genre de choses, et je trouve ça plutôt bien.
J'adore une des comparaisons de l'article, il compare ça avec des cafés, où les cafés modernes, maintenant, ça va être d'aller dans un hackerspace, construire un objet pour sa cafetière, si on veut, à la maison, et puis discuter, refaire le monde, faire de la musique libre, des choses comme ça. C'est vraiment un truc intéressant, parce que les cafés, bah, c'est quelque chose de fondamental à la civilisation française moderne. On s'est constitué là-dessus, les échanges. Et donc là, il y a quelque chose qui vraiment bouge et même les journalistes le mettent en avant.
Plutôt qu'être juste assis chez soi à rêver le monde autrement, l'intérêt des hackerspaces, c'est quand même bah, de le faire.
Voilà, à Lyon, ce week-end, hein, il faut le rappeler, il y avait les journées du libre de Lyon. Et donc, il se passe plein de choses géniales là-bas. Il faut savoir que nos amis de Framasoft sont très représentés dans le coin. Ouest France, le logiciel libre loin d'être game over, un article de la rédaction.
Donc, une présentation locale.
Dans la même veine que l'article précédent.
Mais là, cette fois-ci à Lannion, donc de l'autre côté, alors il nous manque Nico hein, qui vient de par là-bas, donc il connaît bien. Ça parle de la fête du numérique, la fête du libre, la présentation aux Ursulines à Lannion, du
ça
web,
parle même
d'internet.
De libre en fait.
Exactement.
Campagne de l'April.
Et donc ils présentent un petit peu ce qu'ils font et j'aime bien, ils mettent en avant le fait qu'il faut partager ses savoirs, il faut ne pas être esclave. Le libre, ben, ça nous permet vraiment de s'enlever les carcans habituels, donc ils présentent ça aux enfants, ils présentent ça un peu à tout le monde. Donc on en parle toutes les semaines et on continuera, j'espère bien.
ZDNet France, la Commission et le Parlement européen utilisent surtout du libre pour leurs projets logiciels. Un article de Thierry Noisette.
Alors là aussi, on en a déjà parlé. C'est pas si nouveau que ça, mais il y a un audit interne qui vient d'être fait au niveau de la Commission européenne et qui montre que le logiciel libre est très utilisé par les développeurs de l'Europe, hein, des institutions. Et donc c'est important parce que ça permet de bah, simplement sensibiliser au fait que le logiciel libre, c'est pas pour les ploucs. Non, c'est vraiment utilisé même par les gros de ce monde. C'est quelque chose de solide, de fiable et d'intégré niveau de toutes les instances supérieures.
Commencer par Microsoft dans les gros de ce monde.
Eh bien, pourquoi pas. Après tout, le libre, même les gens qu'on n'aime pas au début, en tout cas, ben, ils peuvent s'y mettre.
Toute la pile IP de Windows est juste récupérée sur BSD.
Et peut-être même le noyau, hein, il en a été question.
Le réseau fonctionne sur Microsoft, sur Windows, depuis qu'ils ont repris du libre pour le faire.
Alors moi, ça me rappelle aussi un article qu'on avait vu sur Météo France, qui faisait une sorte de rétrospective sur leur choix du libre d'il y a 10 ans, pour toute leur infrastructure super lourde, avec leurs calculateurs qui font
des bases
machins.
De données énormes.
Voilà, et vous et disait, 10 ans après, on est vraiment content d'avoir fait ce choix-là, parce que ça nous a permis de nous adapter, de faire grossir notre infrastructure, etc., etc. Et c'était vachement intéressant, parce que c'était pas juste une question de « ça coûte moins cher », c'était une question de « ça nous a permis de faire des trucs où
et
on aurait
viable
été,
sur voilà, le long terme.
C'est viable sur le long terme, et on aurait vraiment galéré si on n'avait pas eu ça. » J'ai tendance à rapprocher cet article de ce sujet-là, parce que ça me semble être un petit peu le même genre de logique.
Alors, il parle hein, de Heartbleed, une faille de sécurité importante, majeure même, et qui avait touché le logiciel libre et Internet par ce biais. Et donc, ils mettent en avant, bah voilà, il faut participer au logiciel libre, et on peut espérer qu'ils vont dégager bah, des budgets pour des développements, pour soutenir des développeurs qui travaillent parfois tout seuls sur des clés, des briques un peu indispensables à Internet. Donc, la commission s'y met, c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant.
C'est très bon signe. On a fait le tour de cette revue presse.
Bah, je te dis à la semaine prochaine, à une prochaine fois, Simon.
À une prochaine.
Ouais, merci d'avoir participé.